Alors, est-ce que tout le monde est ici pour cette première table ronde de la seconde demi-journée du coup de la journée d'études? Ah, je vois Michel, il y a encore des arrivants. Bon, on va commencer du coup doucement. Alors, pour cette table ronde, du coup, a été organisée, comment dire, on va dire les premiers, second combattants de la deuxième génération de punk, on va dire. Donc, ça vous va si on vous appelle comme ça? Bon, je veux pas non plus trop vous vieillir. Hein. Ce que je vous propose, c'est que on fait d'abord un petit tour de table pour que vous vous présentiez. Quels sont vos faits d'armes? Durant quelle période spécifiquement? Voilà. Et puis après, on vous laissera, digresser sur la scène punk orléanaise et le souvenir que vous en avez, quoi. Donc déjà, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter votre parcours de punk et tout ça, quoi?
Bonjour. Donc Jean Zindel, photographe. Toujours photographe d'ailleurs, photographe à vie, depuis plus de 40 ans. Donc j'étais sur la scène début 80 jusqu'à fin des années 80, début 90. D'accord. À faire des images sur Orléans ou Blois, Tours, Le Havre, Paris, voilà, différents, Bourges. Tout ce qui passait par Orléans, je le faisais. Français ou international aussi.
D'accord. Voilà. Et pendant combien de temps du coup?
10 ans. Donc j'ai une collection noir et blanc, un peu énorme.
Oui, bonjour, ben, Pierrick. Première scène, ça doit être 80-81, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, avec 555.9, un petit groupe punk, voilà, donc complètement oublié, mais c'était marrant, ça nous a fait des premières armes, puis après, ben, ça a été Ocage qui s'est tout de suite continué par Halloween, c'était les mêmes membres, on a juste changé de nom, parce qu'Ocage, voilà, ça plaisait pas à des gens, donc, donc on a continué sous le nom d'Halloween, jusqu'à 86-87 par là, et dans les années 90, j'avais remonté un autre truc avec d'autres copains, ben, je suis rentré dans un groupe qui était déjà existant et qui reprenait des morceaux d'Halloween, c'était marrant, et ça s'appelait Tidress, voilà, et depuis plus rien.
Bonjour, Jean-Benoît, actuellement bassiste de Bernays, et sinon bah, tombé dans la marmite dans les années milieu 80, fin 80. Jouer dans divers groupes et toujours maintenant dans Beningaz. Donc, baigné dans le fief orléanais dans la fin des années 80.
Super.
Jean-Christophe, moi j'ai commencé à faire de la musique donc, avec un groupe qui s'appelle Desktop. Et oui, on parlait du bon goût du vocabulaire ce matin avec notre ami historien. Je crois qu'on était en plein dedans, nous, avec Desktop. Donc voilà, un groupe orléanais qui a commencé sa carrière en 81 et qui a cessé en 84. Voilà, donc je connais la plupart des intervenants, voilà, effectivement. Alors, revenir après sur le parcours, mon parcours de punk, on pourra en parler tout à l'heure. Est-ce vraiment un parcours de punk? Ah, ça se questionne.
Bonjour, moi c'est Samuel Roux. Je suis arrivé à Orléans en 83. Je suis venu faire les Beaux-Arts d'Orléans. On m'a très vite appelé Milouf. C'est comme ça, c'est le genre de surnom à la con dont on ne peut pas se débarrasser. Milouf, ça ne veut rien dire. J'ai su après que c'était un militaire, un Milouf. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà. Et donc, alors moi, punk, je m'en fous un peu quoi, de ce genre d'appellation. Je suis venu faire les Beaux-Arts, donc je fais des images. Je fais de la musique aussi, mais... j'ai fait des images, de la peinture, et puis assez vite du graphisme, il a fallu gagner sa vie, etc. Je suis toujours graphiste, j'enseigne donc au Beaux-Arts d'Orléans, qui s'appelle maintenant l'École supérieure d'art et design. Larsen, tiens, Alice est dans la salle. Jean-Luc Théris, j'entends Larsen. Et voilà, donc là, si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour témoigner de ce rapport à l'image qu'on avait à Orléans et dont j'étais un acteur. Autant une ville comme Le Havre, mélanger la musique rock avec plutôt le théâtre, c'est comme ça, à Orléans, et j'en ai fait partie avec Jean, avec d'autres, où on a fait des images qui collaient complètement à notre génération, etc. J'avoue que j'ai un peu hésité à venir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Puis j'ai vu des noms comme strychnine. Là, ça m'a tout à l'heure, là, j'ai les poils qui sont dressés sur alcool. Voilà. Donc, punk, ça me fait un peu chier, mais j'aimais bien ce groupe que je connais pas d'ailleurs, mais qui s'appelait Mon Côté Punk. Je préfère vraiment cette notion. On a tous un côté punk qu'il faut nourrir, quoi. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler.
Merci. Ben moi, Karl, je chante dans le comité Insect. On avait commencé en 81. Moi, j'étais punk avant. J'ai dû être punk, je sais pas, j'avais 13-14 ans, 78 par là, 78, ouais, à peu près, ouais. Merde, je vous ai dit mon âge. T'es con. voilà, et puis donc on a commencé, j'ai fait un peu des petits groupes avant avec des potes, j'étais en région parisienne, mais j'étais toujours sur Orléans, je venais passer tous mes week-ends à Orléans, et puis on montait comme interne en 81, je sais pas quand est-ce qu'on a arrêté, on a arrêté à un moment, je sais plus quand, moi j'ai pas une très bonne mémoire des dates, et puis on a repris il y a une dizaine d'années, et ben voilà, et puis on n'aurait jamais cru qu'on allait se balader dans le monde entier grâce à Comintern, parce qu'on a commencé à répéter, on répétait dans ma chambre. On ne savait pas jouer du tout. C'était nos grands frères, l'autre groupe d'Orléans qui s'appelait Rache Orgasme, qui était un peu nos grands frères musicaux, on va dire, quoi, hein, qui nous passaient du matos. Ils venaient nous accorder les guitares, on ne savait pas jouer du tout. Donc ils accordaient pour faire des barrés avec un doigt comme ça. Puis on répétait dans ma chambre. Puis voilà, quoi. Un doigt comme ça. Non, pas celui-là. Voilà, on a commencé comme ça, et puis voilà. Et puis depuis, on se promène, et c'est toujours super agréable de se balader avec ses potes. On est trois du groupe d'origine, et puis deux autres qui nous ont rejoints, mais on est toute une bande de potes, et on en profite, et on s'amuse bien.
D'accord. Voilà. Bon, on voit bien que le cœur des activités, on va dire, ça a été durant plutôt les années 80 pour ceux qui n'ont pas repris entre-temps. À cette époque-là, où est-ce qu'on se retrouvait et aussi comment on découvrait d'abord peut-être le punk, hein, à Orléans, et une fois que l'on était punk peut-être, où est-ce que l'on se retrouvait, peut-être un disquaire, peut-être un lieu dans lequel effectivement on découvrait et aussi on se regroupait autour de cette culture-là. Dites-moi.
Ouais, c'est ouais, ça. Au début, il n'y avait pas grand-chose. Je peux dire que fin des années 70, Orléans, c'était très morne. Hein. C'était à 7h du soir, il n'y avait pas un chat dans la rue de Bourgogne. Si des gens connaissent bien la rue de Bourgogne et qu'ils l'ont connue dans les années 70, si on rencontrait quelqu'un, il valait mieux changer de trottoir en général. Et alors, bon, quand on commençait à avoir les cheveux droits sur la tête et porter un imperméable, c'était assez difficile. Soit on se faisait braquer, bon, pas l'imperméable, parce que les mecs, ils en avaient un peu rien à foutre, ils braquaient les badges et puis les rangers qu'on avait au pied. Donc voilà, c'était un peu. Et puis petit à petit, ben, il y a des endroits, alors ça va étonner aussi peut-être pas mal de gens, on traînait au Lutetia. On se retrouvait, les rockers, les rockabilly, les punks, les motards, on se retrouvait au Lutetia. Et puis petit à petit, il y a eu Music Please. Alors ça, Music Please, ça a été l'endroit fabuleux, quoi. On découvrait tout, quoi. On découvrait les groupes qu'on écoutait le samedi à Chorus, et puis là on pouvait aller écouter les albums. Titi nous conseillait. Titi, je continue toujours à le voir parce que c'est un grand fan de rugby, et il entraîne les gamins et on se voit tout le temps. Mais et puis il y avait le musicien aussi, qui était un autre endroit où on pouvait se retrouver aussi, qui Gérard Garcia, qui était toute petite boutique qui est rue de Bourgogne. Il achetait du super gros matos, mais des trucs qu'on pouvait pas se payer. Et il était là, il dit ça c'est pour vous, c'est pour que vous ayez l'occasion de jouer sur du vrai matériel. Et comme on disait tout à l'heure avec Karl, on en reparlait, mais voilà, on avait besoin d'un ampli, on allait le voir pour aller faire un concert, il nous passait. Ou alors c'était « Oh, mais où je l'ai mis, l'ampli ? Je l'ai prêté à quelqu'un, je sais plus, quoi. »
C'était inespéré, parce que tu avais quand même un mec qui te filait du matos, on allait le voir, « Tiens, on a un concert, tu peux nous passer un ampli ? » ?»« Ouais, bah tiens, prends-le. » Les cordes de basse, les cordes de guitare, on n'achetait jamais rien. Il nous filait le matos sans arrêt.
Quand on achetait une gratte, on l'achetait en 5, 6, 7, 10 fois, quoi. Ouais. Et c'était inespéré parce qu'on avait du matos, on avait du vrai, on pouvait jouer. Et en plus, même il nous passait. Moi, je sais que ma gratte, ma Telecaster, il me l'a vendue, mais j'avais pas les sous encore. Il m'a dit, t'as un concert dans 15 jours, emmène-la avec une housse, en plus, prends la housse et tout. Donc c'était quelqu'un de bien. Et puis petit à petit, Orléans, après il y a, donc bien sûr, on n'avait aucun endroit pour jouer. Donc c'était les garages, hein, les vrais garage bands des Clash, hein, c'était ça. Hein, c'était donc la chambre de Karl. J'ai assisté au début de Thomas à la batterie dans la chambre de Karl.
Donc des concerts dans ta chambre, alors du coup, hein, dans après, des garages.
On a fait tous les bars en fait. On jouait dans les bars.
Après
aussi.
Oui, c'était les bars quoi. C'était les.
Et
les
en
bars.
Fait, on jouait dans un bar. Le bar, il y avait 2-3 concerts. Il y avait des plaintes, donc il faisait plus de concerts. Donc on jouait dans le bar d'à côté, etc., etc. Et c'était ça qui était chouette, parce que c'est vrai que ce que disait Pierrick, Orléans maintenant et Orléans dans les débuts des années 80, ça n'a rien à voir. C'était bien une ville bien sombre, bien triste, bien dure. Ça ressemblait pas du tout à ça.
Je me rappelle d'une chanson qui s'appelait Orléans, ville de mort vivant, ça te dit rien?
Parlez bien dans le micro, parce que comme ça, on enregistre en même temps, on pourra vous entendre.
Oui, puis,
en fait.
Puis donc après, on avait la seule salle où on pouvait jouer. Sinon, à l'époque, faire des concerts, c'était la salle du Baron. Quoi. Et la salle du Baron, c'était une... Vous imaginez une énorme table de ping-pong avec le son qui rebondit dans tous les murs. C'est un truc dégueulasse, quoi, qui était insonorisable. Et puis, petit à petit, il y a eu des endroits qui nous ont accueillis. Il y a eu le Vergalant.
Ouais.
Il y a le zigzag.
Non, mais dans la rue de Bourgogne, on jouait à la Soloniote, Alger la nuit. On a
fait ouais, non, ça c'est après, ça encore. Ça, c'est,
je sais pas,
ouais.
J'ai aucune mémoire des dates.
Et puis petit à petit, oui, quand on a pu. Quand il y en a qui se sont dit, on peut faire des concerts avec juste 30, 40, 50 personnes en public. Alger la nuit, il y a eu l'Impasse, il y a eu le Bar Bourgogne, le Carodéal.
Même à Music Please, il y avait des concerts, ils poussaient un peu les bacs et ils faisaient des concerts.
Oui,
eu énormément, mais il y en a eu. Quoi.
Tu parlais du musicien, c'est où vous entendez?
Ouais, c'est bon.
J'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'ils ont eu une influence très forte, quoi. Je me rappelle, moi, des jeunes DDT.
C'était pas les mêmes, c'était pas au même endroit.
C'était plus Gérard.
Je pense que Michel.
Mais c'était son ancien vendeur à Gérard, donc.
C'est vrai.
Mais Michel était pas mal aussi. J'ai jamais rien acheté chez lui, quoi. J'ai fait des peintures dans son magasin, mais les DDT ont trimballé des pancartes, des sandwichs, etc. Ils étaient payés en Mediator. Il m'en reste d'ailleurs.
Un peu plus qu'en Mediator.
Il m'en reste quelques-uns, mais bon, des poches d'un kilo de Mediator, quoi. C'était génial. On a tous profité. Et c'est vrai que ces lieux-là, tu as dit Music Please, peut-être que des gens ici ne connaissent pas, c'était un disquaire, quoi, un disquaire indépendant avant la FNAC, avant. Voilà. Pardon ?
Le micro ne marche pas non plus.
Pardon. Donc, je ne répète pas, hein, mais c'est vrai qu'il y avait des lieux comme ça. Et des. Music Please, après. Non, bon, c'est moi. Après, là, ça va ? Là, c'est bien. D'accord, une sorte de fil. Et puis Thierry Records, etc., avant que la FNAC existe, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, Fred parlait d'une vieille dame qui était venue le voir tout à l'heure. Tu n'as peut-être pas dit vieille dame, mais au moins dame. Mais je me demandais qui ça peut être. Et voilà, c'était Sandrine. Tu n'as pas dit de nom, mais c'est peut-être une vieille dame maintenant. Mais non, elle sera jamais une vieille dame. Mais c'est vrai que cette époque-là, au Beaux-Arts, il se passait des choses aussi. Moi, je suis arrivé en 83, donc je ne connais pas toutes ces histoires du Vergalant, etc. Mais je suis arrivé dans une putain de ville de cons quand je suis arrivé à Orléans. Vraiment, quoi. Une ville conservatrice, une ville où il m'a fallu 3 ans pour me dire, je vais rester, quoi, finalement. Parce qu'une fois qu'on commence à avoir des amis, c'est des amis qu'on garde. Voilà. J'ai rencontré Thomas parce qu'il avait une copine au Beaux-Arts à l'époque. C'était Sandrine, d'ailleurs. Et qu'habitait un immeuble.
Sans
juste
qu'on va être dans la petite histoire.
Là. Non, mais elle habitait un immeuble qui a été rasé, c'est devenu la FNAC, quoi. C'était dans la rue de la REP. Donc,
on faisait des concours d'avions en papier du haut de chez elle, qu'on lançait comme ça dans la rue de la République. Vous aviez plein d'avions de papier qui volaient. C'était beau.
C'était beau. On était beau d'ailleurs.
On était très beau. Moi, quand j'ai, je connaissais, mais quand il a passé son examen, Milouf.
Ah, t'étais là.
Ouais. Bah oui, j'étais là. Bah oui, j'ai même joué.
Vous êtes rencontrés par le punk ou vous étiez des amis en dehors du punk et c'est le punk.
Je vais revenir. Moi, je suis arrivé à Orléans dans une ville que je connaissais absolument pas. J'avais un bagage déjà. J'avais déjà mes disques. J'avais les Stooges. J'avais MC5. J'avais une culture musicale déjà. Et je suis arrivé dans une ville où j'ai vraiment rencontré des gens et une ambiance. On parlait pas forcément de punk, mais il y avait une culture rock, en tout cas, une culture un peu déglinguée et assez sérieuse, quoi. Il m'a fallu 3 ans. 3 ans avant d'être non mais je parle peut-être très mal dans le micro. Il m'a fallu 3 ans pour être introduit, accepté dans ce milieu que je. Hein? Oui. Et c'est vrai que j'ai passé mon diplôme aux Beaux-Arts en 86. Mon thème de diplôme, c'était rock and roll Ubanom Est. Il y avait une petite référence à OTH. Quelqu'un en parlait ce matin sans citer OTH. Je crois que c'est toi. Non, pas de flic, pas de. Voilà. Rock and roll Ubanom Est. Et j'avais invité la fille fleur du rock orléanais qui me prenait un peu pour un,
pour un con, c'est qui ce branleur là qui vient d'Angoulême, etc. Il n'est pas de chez nous, il n'est pas comme nous, etc. Ils ont accepté de venir, il a fallu que je les provoque. Je leur dis quoi, tu veux un Bristol, tu veux des invites, vous n'arrêtez pas de vous plaindre, il n'y a pas de lieu pour jouer. Et j'ai passé mon diplôme devant un jury national, machin, etc. Et j'ai vu passer une batterie, une guitare, un ampli, machin. Putain, ils viennent, ces cons-là, quoi. Et juste quand j'ai terminé mon truc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, c'est parti. J'étais intronisé, j'étais accepté, quoi. En faisant de l'image. En faisant simplement de l'image. Et je me suis vraiment senti bien dans cette troupe-là, quoi, dans cette équipe-là. En faisant de l'image, hein. On m'a dit t'es un peu le chaman, ou j'aime pas trop ces étiquettes, mais on peut faire du rock, du punk sans faire de musique, quoi. Après j'ai fait de la musique, mais c'est pas ce qui me caractérise le plus.
Quand tu dis en faisant de l'image, c'était pas n'importe quoi comme image aussi, c'était des images qui étaient très très reconnaissables, très qui s'imprégnaient aussi beaucoup de la culture rock ou punk rock, et tu as énormément participé à des pochettes d'albums, fait des graphes aussi déjà sur les rues de la ville, rue de la Folie, il y avait des putains de peintures. Enfin bon, tu as apporté énormément de trucs aussi dans ce milieu-là.
Oui, je vois que l'image aussi, du coup, c'est quand même assez important pour toi, intégré dans ce qu'on pourrait appeler une scène à l'Ernest. Orléanaise, pardon. Toi aussi, ça a été la même chose. Tu as intégré la scène par effectivement l'image, mais plutôt photographie. Ça s'est passé de la même manière pour toi. Est-ce que t'as senti que le fait au début d'être non musicien, parce que toi, c'était parce que t'étais pas de la ville à la base, mais quand même le côté musique, j'ai l'impression que c'est important. Le côté clivage peut-être du médium artistique peut-être était clivant. Est-ce que toi, tu l'as vécu de la même manière, ou on avait direct besoin de photos et donc tu faisais toute
non non ouais. Moi, j'allais déjà au concert, enfin déjà fin 77, 78, j'allais déjà au concert, ouais. Et parce que j'aimais la musique live.
Et en face de toi, bien comme
en
ça.
En face de moi, bien comme ça. Et j'ai eu un appareil photo début 80, ouais. Et j'ai lié les deux naturellement. Voilà. Et ça pesait au... Après, je montrais mes photos, ça pesait aux kids, aux gars des groupes et tout ça. Eric ou Karl à l'époque, et faut continuer, voilà, c'est pas mal. Bon, je continuais, je faisais des petites photos, ils m'invitaient à des concerts, je faisais des photos, puis ainsi de suite.
Ouais, mais faut dire aussi que s'il n'y avait pas eu Jean à l'époque, il n'y aurait pas de souvenirs de photos, oui. Parce qu'on n'avait rien branlé de faire des photos, nous. Ouais. On n'y pensait pas, déjà, fallait acheter des pellicules. On fallait les emmener à développer, les trois quarts, ils étaient foirés, donc on n'en avait rien à foutre de faire des photos. Et puis surtout, ce qui nous intéressait, c'est de vivre le moment présent. Moi, c'est ce qui, des fois, me gêne un peu aujourd'hui. Les mecs, ils n'ont même pas branché un ampli. Ils ont déjà fait 50 photos, 45 posts. C'est le groupe le plus connu de la planète et tout. Alors que là, on n'en avait rien à foutre. Ce qui nous intéressait, c'est de vivre le moment présent. Et c'est vrai que c'est grâce à Jean qu'il y a cette mémoire. Parce que sinon...
Bah, peut-être qu'on peut parler un peu de ça, effectivement, spécifiquement avec votre scène, mais on pourrait dire basiquement que le punk, ce serait le nous futur, on vit l'instant présent, etc. Comme tu disais, on n'oublie pas de vivre, hein, on vit d'abord, et puis après on verra pour le futur. Pourtant, il y a eu un futur, on le voit bien. Hein. Du coup, tu as parlé de vos groupes, effectivement, tu as tourné un peu partout, Jean-Benoît pareil. Toi, tu es devenu photographe, on peut dire peut-être grâce au punk. Peut-être que la question que j'aimerais vous poser, c'est... À quel moment et comment vous avez structuré, je dirais, une activité qui vous permettait d'en vivre par peut-être le punk ? Peut-être que cette dénomination ne vous va pas aussi. Hein. Vous pouvez peut-être le dire si ça ne vous va pas, mais comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était déjà à quel moment ? Est-ce que ça a été conscientisé ? Est-ce que ça ne contrevenait pas aussi peut-être avec un idéal punk que vous faisiez quand vous étiez peut-être un peu plus jeune au début, où vous disiez bah non, on s'en fout, tout ce qui compte c'est l'instant présent et le fait d'en vivre, ça nous paraît peut-être... aberrant par rapport à l'esprit punk. Comment vous avez aménagé ça, un petit peu cette carrière? Comment vous l'avez structurée? Et si carrière vous va, hein, d'ailleurs, le mot hein.
Bah, moi, je réponds vite fait. Là. On n'a rien aménagé. On n'a rien calculé. On est encore surpris aujourd'hui, tu vois, de ça. Et puis, quand on a repris, nous, ça fait une dizaine d'années. Moi, je ne savais même pas que Comintern était connu, ni rien. Tu sais, j'étais surpris. Et en fait, on a eu l'opportunité d'aller faire un concert à Stockholm. Moi, le deal qu'on avait, quand Thomas m'a proposé qu'on joue, le deal, c'était bah, on va essayer de le faire correctement déjà. On va essayer de jouer correctement. On va essayer de ne pas être trop ridicule. Puis on verra bien si on passe pas pour des vieux cons. Puis si on fait pas chier les gens de nous voir là. Et puis c'est vrai que ça a été une surprise parce qu'on s'est retrouvé à Stockholm. Il y avait des gens du monde entier qui étaient là. Et parce qu'ils pensaient que c'était, on en ferait qu'un. Et puis on s'est bien amusé. Et puis on était surpris de voir les mecs chanter les paroles et tout. Moi, j'avais aucune conscience de ça, aucune conscience de ça. Et ça continue à me surprendre à chaque fois parce que de voir, il bah, y a une espèce de, bah, c'est KO avec KO Productions qu'on a monté. Je sais plus en quelle année ça a commencé. Mais on a monté KO pas pour laisser une mémoire, pas pour faire quelque chose, c'est parce que personne n'en avait rien à foutre des groupes punk de gamins et encore moins des groupes punk de province. Donc c'est pour ça qu'on a monté KO, on n'avait pas de rond, on a bossé un petit peu tous l'été, on s'est associé à 4 groupes pour pouvoir payer Apocalypse KO qui était le premier. Mais c'était plus parce qu'on avait envie d'avoir un truc à nous, quoi. On avait envie d'être... ça nous faisait plaisir, quoi. Mais c'était tellement la galère. Et on est allé enregistrer dans un studio à Tours. Mais on n'en revenait pas, on s'entendait, on s'était jamais entendu avant. Parce qu'on répétait dans ma chambre, on n'avait pas de sono, on n'avait pas de choses comme ça, quoi. On répétait, on branchait ça sur un ampli pourri, on n'entendait rien, quoi. Et là, on était tout content. Putain, on s'entend, ouais. On n'en revenait pas, quoi. Mais on n'a rien conscientisé, on n'a rien projeté, on n'a rien à foutre.
Oui, je crois que c'est vraiment l'essence même des gens qui sont là aujourd'hui. C'est ce qu'on fait comme ça quand on a 16, 17 ou 18 ans. Évidemment qu'on n'anticipe pas, évidemment qu'on ne projette pas. L'idée, en tout cas de mon point de vue, je ne sais pas, vous verrez, mais c'était surtout de profiter d'essayer d'utiliser tous les nouveaux moyens de diffusion aussi qui étaient là, qui étaient vraiment en émergence, et de ne pas se contenter de ce qui existait avant. Or, ce qui existait avant, souvent, c'était du rock progressif, enfin, surtout à Orléans, qui était une ville de blues ou de rock un peu progressif, et donc c'était aussi une façon pour nous de se démarquer et d'aller à l'encontre de ce qui nous était d'une certaine manière imposé, parce que Orléans avait quand même effectivement, comme tu le disais, une image très de ville bourgeoise et je sais pas si on... ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais, de vieux con, t'as dit, voilà. et donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de se démarquer et nous, en tout cas, avec des stops, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'était aussi de... on s'est investi, on a fait des fanzines. Moi, j'ai fait de la radio libre très rapidement. Enfin, il y a eu... C'est aussi une époque qui permet la diffusion par des nouveaux moyens. Enfin, des nouveaux moyens pour l'époque. Évidemment, aujourd'hui, ça fait rire quand on parle de fanzines photocopiées en format A4. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'était aussi global. Pour moi, ce n'était pas que de la musique. C'était... une expression de nos personnalités, quoi, de jeunes dans une ville d'Orléans, mais aussi avec une envie de développer des choses artistiques, mais pas de développer une carrière, quoi. Ça, c'est évident. Alors là, certainement pas. Et alors, Desktop n'a pas le succès de Comintern, et on est ravis que Comintern ait ce succès. Non, mais cela dit, à notre échelle, donc nous, on a fait qu'un 45 tours. Et qui est maintenant mythique, qui est recherché. On a fait un mini-album aussi. Voilà. Et donc en 2004, un petit peu comme toi, Karl, j'ai été contacté par des labels, un label américain, etc., qui s'intéressait. Et là aussi, comme toi, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils connaissent des stops ? On a fait pas grand-chose, enfin une centaine de concerts peut-être à l'époque, c'est tout, et 2 disques. Et en fait, il y a un engouement total alors je sais pas si c'est pour vraiment cette musique pour la musique de ces années-là ou si c'est pour ce qu'on incarne, c'est-à-dire l'expression, quoi, de ces années-là. Donc toujours est-il que Desktop a été réédité maintenant plusieurs fois, une fois en 2004. J'ai donné une interview à New York où je parlais de Desktop en 2009. Donc c'est complètement, alors là c'était comme toi, totalement surréaliste. On me demandait de parler du mouvement punk à Orléans, sachant que j'étais loin d'incarner, mais ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était être punk à Orléans, surtout nous, Desktop, on utilisait une boîte à rythme. Donc déjà, en plus, on était un peu tricards vis-à-vis des groupes de rock. Enfin bon, donc c'était... Voilà. Non, quand même pas, mais bon. Ouais.
Et donc c'est... Le micro.
Bernard est venu jouer avec nous après...
Oui, voilà, oui, on a un de nos musiciens qui est parti. Enfin, voilà. Mais...
voilà ouais, donc...
Non, 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 mais cela dit, nous, ça se passait très bien. Orléans, c'était très bien, mais oui, de temps en temps, effectivement, il fallait se battre un peu quoi, dans les festivals, quand même.
Ouais, donc... Je voulais revenir à ce que.
Ouais.
Ça marche ? Ça marche ou c'est le micro qui... ouais. Ce que je disais tout à par rapport à nos carrières, c'est vrai que le mot carrière, on s'en foutait un petit peu. Mais. Moi, ouais, on s'en fout toujours. Mais pour ma part, j'ai eu des gamins assez jeunes. Il a bien fallu que je gagne ma vie et de la peinture que je faisais dans un lieu qui s'appelait Oulan-Bator. C'était très ami avec le Confort Moderne à Poitiers, etc. Un autre groupe de la scène locale à l'époque, c'était Un Département avec Marcel Canche qui écrit aujourd'hui pour M, etc. Ce même M qui écrit pour Johnny Hallyday. On se demande un peu ce qui se passe. Voilà, enfin bon, il y avait tout ce bouillon là. Mais pour revenir à cette idée de carrière, j'ai eu un atelier assez rapidement ici et je suis vite passé à la commande, le graphisme, sans jamais avoir cherché du boulot quoi. En faisant des pochettes de disques. D'ailleurs, si je m'appelle encore Milouf aujourd'hui, c'est que ça a été gravé dans le marbre. J'ai rien demandé, mais pochette Sam Milouf Roux, ça a été gravé dans le marbre à ce moment-là. Je me dis merde, bon ben voilà. Bon, on s'en débarrasse pas comme ça. Mais j'ai toujours pris des stagiaires de l'école des Beaux-Arts. J'ai fait des jurys et le directeur m'a demandé de venir en me disant. Alors là, on va peut-être revenir un peu à la discussion plus pas philosophique mais sociologique de ce matin. Le directeur m'a dit j'en ai marre de ces 68 arts. Il me faut de la jeunesse. Et ça fait 25 ans maintenant. Je crois que les vieux punks, ma casquette de mon côté punk, on est devenus des 68 arts de l'époque. Les gamins n'en ont plus rien à foutre. Alors ils viennent au concert, ah c'est génial, vous vous amusez, c'est bien, nous on fait pas ça, etc. Donc voilà, je pense que j'ai eu mon diplôme avec une belle mention pour l'authenticité. Je crois que ça fait partie de ce qui fait qu'on est encore ça aujourd'hui. Et si des gamins nous aiment encore aujourd'hui, c'est pas pour ce qu'on a fait, c'est pour ce qu'on est resté. Et je pense que ça c'est vraiment important dans ce besoin de liberté qu'on a eu. On avait 20 ans dans une époque où tout était permis, quoi, et on avait tout à faire. Je crois que c'est un gros coup de cul, quoi. On a eu de la chance là-dessus. Nos parents ont vécu la libération sexuelle, machin, etc. Nous, on a eu le sida. C'est pas tout à fait la même libération, si tu veux. Mais moi, je suis très content d'avoir eu 20 ans en 83, quoi. Ouais.
Voilà. Alors, je sais que tu aimes pas trop ce mot punk ou que tu t'en fous, du moins.
Je m'en fous, ouais.
Mais oublie pas de parler dans le micro. Tu peux lui passer le micro aussi, si tu veux. Non, mais on va pas t'entendre. Sinon. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de ce qu'est le punk, c'est quoi la vie d'un punk à Orléans durant les années 80, quoi. Hein, comment vous vous reconnaissiez entre vous ?
Je crois que la question se pose pas, la question ne se posait pas et se pose toujours pas aujourd'hui.
D'accord.
C'est quoi la vie d'un branleur de 20 ans qui a envie de se fendre la gueule, de rigoler, d'aller boire des coups, et je sais pas, d'aller voir des concerts, quoi. C'est quoi la vie d'un gamin aujourd'hui à 20 ans, quoi ? Ouais, à l'école, j'ai donné un jour un sujet comme ça pour manipuler un peu l'objet. Ouais. Faites un CD, le CD que vous voulez. Comment est-ce que vous allez emballer votre CD, comme on emballait les cassettes n'importe comment dans les années 80. Et vous faites votre playlist. Voilà. Et vous nous dites ce que c'est que d'avoir 20 ans aujourd'hui. Et il y en a qui viennent me voir, ouais, mais c'est facile pour vous. Vous avez 20 ans dans les années 80. Nous, on ne sait pas. Et tu vois, l'école des Beaux-Arts est sur un des flancs de la cathédrale. Et un jour, il y a 25 ans encore, je demande, mais vous êtes grimpé là-haut ? Parce qu'il y avait des échafaudages toute l'année. Hein, il fallait 10 ans pour faire un tour. Évidemment qu'on grimpait à la cathédrale, on passait des nuits. Qui ici, parmi les anciens, n'est pas monté à la cathédrale ? Bon, Jean, tu sais des photos. Non, mais voilà, la réaction des gamins, c'est « Ben non, monsieur, c'est interdit. »
Dans le micro.
« Ben non, monsieur, c'est interdit. » Attends, je veux dire par là qu'ils vivent pas la liberté. Il n'y avait pas de caméra, il y avait autant le flic, mais il n'y avait pas de caméra. On pouvait monter à la cathédrale, on s'autorisait. C'était interdit aussi, si tu veux. Mais avoir 20 ans dans les années 80, c'est pas avoir 20 ans aujourd'hui à Orléans.
Et surtout à Orléans, parce que vu comment ça a évolué au niveau sécurité, justement au niveau caméra, au niveau des. Enfin, tu bouges une poubelle, il y a tout de suite une voiture de Schmitt qui arrive et qui remet la poubelle en place et qui te dit qu'il ne faut pas faire ça. C'est clair que. Ouais, c'est,
oui, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'urbanisation en elle-même déterminait ce que pouvait être une certaine jeunesse à un moment donné, qui pouvait après être. S'appeler punk après. Mais là où je.
On s'autorisait les choses. On n'attendait pas qu'on nous donne l'autorisation de faire. On faisait ce qu'on avait envie, et puis voilà. Et puis c'est sûr qu'on devait faire chier le monde, parce que les poubelles, on en a balancé des poubelles en rentrant chez moi, Pierrick. Et bon, les gens, le lendemain, ils devaient pas être très contents de retrouver leur poubelle au milieu de la route et tout ça, mais on n'avait rien à branler. Et puis, on n'était pas sur le côté, ah, mais c'est dégueulasse, on a mis des saletés par terre et tout ça. Non, on faisait ce qu'on avait envie de faire, on était bourrés, on rentrait, bam, on se tapait dans une poubelle, et puis après, on balançait toutes les poubelles de la rue, puis voilà, quoi. Ouais, c'était peut-être pas très malin, mais ça nous faisait marrer, puis ça nous occupait jusqu'à rentrer chez moi, quoi. C'est ça, en fait.
C'est même tout, une quoi. Fameuse discothèque rue Oligno qui s'est pris aussi beaucoup de sacs poubelles à une époque.
Ah oui. Ouais, parce qu'on les aimait pas bien.
Bah oui. Ouais, on les aimait pas les discours. Non, ouais, bah, je vais faire un petit truc. Quoi. Tu parlais de carrière, de punk. Tout ça. Tu peux pas avoir une carrière de punk. D'abord, si à partir du moment où tu parles d'une carrière, déjà là, t'es hors sujet, quoi. Si t'as un plan de carrière, dans ce cas-là, si t'es un vrai punk, bah tu changes de plan de carrière toutes les 5 minutes. Donc tu peux pas, c'est interdit. Tu te l'interdis dans ta tête, quoi. Et tu parlais aussi de voir le futur. Ben le futur n'existe pas, faut pas l'oublier. Hein. C'est no future. Hein. Mm. Et on vit que l'instant présent, tout le temps. Et c'est comme ça que tu peux avancer, quoi.
Alors, pour autant.
C'est sûr de carrière, excuse-moi, je reviens dessus aussi.
Bien sûr, mais je voulais justement t'en parler à toi.
Moi, j'en parle une dizaine d'années en arrière, après, c'est-à-dire plus dans les années 90, où par rapport à Burning Heads, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un choix à un moment donné, pas un choix de carrière à proprement dit, mais un choix de savoir si on préférait faire le groupe de temps en temps, comme tous les groupes, c'est-à-dire avoir un boulot. Et puis faire le groupe quand tout le monde pouvait être disponible et faire quelques concerts dans l'année, ou alors se donner les moyens de vivre autrement et de vivre pour le groupe, de pouvoir faire tous les concerts qu'on veut avec le groupe, mais sans avoir trop de boulot. Bon, dans les années 90, pour nous, ça a été aussi beaucoup plus simple à organiser. Car il y a le statut d'intermittent qui était déjà pas mal développé et on a pu bénéficier de ce statut, pas avec le groupe, en poussant des caisses à côté, en travaillant à côté, mais en travaillant dans le milieu musical, dans le milieu qu'on connaissait, à monter des structures, à pousser des caisses, à pousser au Zénith, concerts à droite à gauche. Et ce statut d'intermittent nous a permis de dégager suffisamment de temps pour faire des concerts avec le groupe et partir. Deux mois si on voulait, si on pouvait, si on avait suffisamment de concerts pour partir deux mois, mais partir deux mois et ne pas avoir de compte à rendre à un patron en rentrant ou d'être obligé de quitter son boulot pour partir deux mois et puis retrouver.
Et actuellement, c'est toujours le cas. Vous faites votre intermittence en faisant des cachets à côté ou c'est maintenant 100% pour l'activité du groupe avec l'activité du groupe?
Non, c'est toujours le cas. Ça n'a jamais été 100% avec l'activité du groupe.
Voilà. Alors, c'est la question que j'aimerais te poser justement parce que toi, quand même, tu as poussé cette activité punk, je dirais, quand même à un degré où vous êtes à peu près 100 dates par an, je crois,
punk,
c'est ça?
Intermittent du spectacle, je ne suis pas sûr que ça aille très bien ensemble.
Mais c'est tout le paradoxe justement que j'aimerais questionner parce que, objectivement, je dirais l'activité principale que tu as de ton temps éveillé, je suppose, hein, je ne connais pas ton quotidien, mais j'imagine que c'est lié au groupe, aux activités avec comment organiser tout ce qui est booking. Je suppose que vous avez un agent.
Après, on a des agents, on est entouré, mais oui, effectivement.
Donc, ce qui veut dire que quand même, c'est un travail pas dans le sens emploi, un travail, non, je veux dire une activité.
Travail à plein temps, oui,
voilà. Donc,
oui.
Le mot carrière, tu vois. C'est là où je veux dire, nous on n'aime pas l'entendre comme ça. Quand
peut-être
on est
après,
punk,
après
on dit pas.
Enfin, la carrière est derrière moi.
Donc c'est difficile
pas de
à
plan
assumer.
De carrière, mais par contre, il y a une carrière qui est derrière moi. Oui.
Effectivement, ouais. Donc en fait, pour vivre une carrière punk, quand bien même le mot soit très compliqué, il faudrait ne pas le vouloir, quoi, en fait. Hein.
Mais il faut faire ce que tu as envie de faire, surtout, et te donner les moyens de le faire. Après, je ne sais pas si c'est punk, mais c'est une philosophie de vie, en tout cas.
Et toi, c'est pareil pour la photo, du coup, ton métier de photographe? Est-ce que, comment dire, tu t'es projeté dans une activité professionnelle en te disant j'aimerais faire ça et je vais tout faire pour, ou est-ce que tu as juste fait ce que tu avais envie de faire et pour toi être photographe dans le punk c'est nos futurs, pareil, je prends des photos, je vis l'instant et puis on verra.
Au départ oui, c'était vivre l'instant, faire des photos, aller voir le maximum de concerts sans trop songer à en faire un métier, mais j'avais quand même un œil dessus, quoi, à regarder s'il y avait ce qui se faisait. J'allais rencontrer d'autres photographes ou pour avoir des conseils, etc. Et puis, plusieurs fois, j'ai arrêté la photo. Plusieurs fois, j'ai dit, c'est pas le truc, il faut que je fasse autre chose. Et c'est revenu. Et à chaque fois, je me plantais, ça allait pas. Bon. Et puis c'est toujours revenu. Et puis, en fin de compte, j'ai accroché. Voilà. Mais il fallait s'accrocher. C'était dur. Et depuis, là, maintenant, je suis indépendant. Voilà. Je suis auteur.
Et du coup, aujourd'hui, alors, rétrospectivement, quand vous voyez les gamins que vous étiez, je dirais peut-être insolent, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, des gamins qui avaient juste envie de vivre, ce recul que vous avez effectivement sur cette carrière qui ne voulait pas en être une, comment vous le voyez, surtout avec peut-être que vous êtes parent aujourd'hui, donc ce côté impertinent du punk en vous, comment ça s'aménage du coup avec peut-être une vie d'homme un peu plus, on va dire, mûr, on va dire, avec un recul sur sa vie aujourd'hui.
En fait, en posant la question comme ça, je trouve que tu mets vraiment l'accent sur l'attitude. Or, moi, j'ai vraiment l'impression que ce dont on parle là aujourd'hui, c'est vraiment un bouillonnement artistique, un bouillonnement culturel et créatif surtout. Donc, après, savoir si on fait carrière punk ou pas punk, ou si... pour moi, c'est vraiment pas ça, quoi. C'est vraiment l'émergence d'une sorte de bouillonnement artistique, une sorte de nécessité à un moment donné de créer, de faire des choses. Pour moi, c'est l'aspect créatif qui est vraiment en premier, qui intervient en premier lieu, quoi.
Et qui est resté encore aujourd'hui, effectivement.
Je pense que oui. Après, oui, personnellement, oui, bien sûr. Après, est-ce que c'est un bouillonnement punk actuellement ? J'en ai aucune idée, je ne veux même pas le savoir. Enfin, ça n'a aucun sens. Je pense que le bouillonnement punk dont on parle là, c'est celui qu'on a forcément quand on a 16, 17, 18 ou 20 ans. Et lorsqu'on s'oppose, pas forcément de façon brutale et frontale, mais quand on s'oppose par ses choix artistiques, en tout cas, à ce qui est en vigueur dans l'époque dans laquelle on vit... Voilà, à cet âge-là. Je crois que c'est vraiment ça pour moi. En tout cas, moi, ça a été ça. C'est à la fois d'un point de vue artistique, c'est-à-dire, oui, par une musique qui sonnait quand même punk, mais quand même qui était électronique, parce qu'on voulait quand même, nous, se démarquer, en tout cas, dans des stops, des groupes à batterie. On ne voyait pas, en tout cas, l'intérêt d'aller dans cette voie-là. On voulait expérimenter, on avait des pauvres boîtes à rythme qui valaient rien, qui sonnaient de façon complètement pourrie. On avait des synthés, alors aujourd'hui on appelle ça des machines. Alors j'aime bien maintenant que je dis j'étais aux machines. En fait, c'était un pauvre orgue Farfisa pourri, j'avais un autre orgue pourri. Et voilà, donc c'était ça, nous, notre façon de faire de la musique punk, puisque nous, on n'avait pas forcément conscience, d'ailleurs, de faire de la musique punk avec des stops au départ. C'est plus la presse. Et voilà, enfin, je me souviens d'un article de Best qui avait fait deux pages sur le rock d'Orléans, notamment, et voilà, qui nous avait encensés. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est pas possible. Groupe à boîte à rythme à Orléans, enfin voilà, donc c'était très...
Et qui vous avait identifié comme punk, quoi. Là, le mot était posé,
oui, bien
du
sûr,
coup.
Oui, complètement. Et puis d'ailleurs, on a partagé des scènes, hein, avec Comité Insect. On a été d'ailleurs de la première, c'est dommage, Karl n'est plus là, mais on a fait la première union de travail pour KO Productions au Germinal. On ne l'a pas cité tout à l'heure, ce café-là. Voilà, il y avait le Germinal aussi. Il y avait aussi le Petit Ballon, qui était un lieu de concert aussi, qui était un café-théâtre à Orléans, où il fallait s'imposer. Enfin,
le bref. Cactus, alors, aussi, apparemment. Le Cactus, là. Bah, attends,
je reprends dessus. Oui, le Cactus, avant, qui s'appelait le Columbia. La Solognotte, le Petit Ballon, Jean-Marc, qui était fabuleux. Il a ouvert. C'était un petit cabaret. Hein, voilà, c'était. Et là-dedans, bah, on a fait des trucs.
On y a découvert Manu Chao quand même.
Hein,
on y a découvert Manu Chao.
Ah ouais.
Avec les hautes pentes.
Voilà, non, mais il y a...
L'idée, en tout cas, c'était vraiment. Moi, je pense que c'était ça aussi, être punk, je pense, dans les années 80. C'était vraiment se distinguer, aller dans d'autres directions, sachant qu'on était quand même baigné. Moi, j'écoutais énormément de groupes anglais. Enfin, voilà, j'adorais Sham 69, les Buzzcocks, Cockney Rejects, Angelic Upstarts, etc., Crass, dont on a parlé aussi ce matin, Clash, évidemment, plus tard. Enfin, voilà, j'écoutais, je baignais là-dedans, mais ce qu'on avait envie de faire, en tout cas, nous, dans le groupe, c'était... oui, OK, cette énergie, c'est ça, ouais, c'est ça qu'on ressent, c'est ce qu'on a envie de faire vivre, mais avec quand même cette intention esthétique de se dire... Oui, mais on ne va pas la faire vivre, on ne va pas l'exprimer de la même façon que ce qui... Alors c'est très prétentieux hein, de penser ça, parce que c'est idiot. Il y a des tas de groupes guitare, basse, batterie qui effectivement parvenaient parfaitement bien à se distinguer du reste de ces influences. Mais en tout cas, nous, c'était notre vision. Voilà. On pensait qu'avec des instruments différents, on ferait différemment et ce serait autre chose.
Ouais, Jean-Benoît, ouais, tu...
Je voulais, par rapport, parce que c'est pareil, nous aussi, à un moment, quand on a monté le groupe OKH, qui devient Halloween juste après, on a voulu aussi se démarquer des autres groupes punk, qui eux étaient avec beaucoup plus d'influence. Nous, on est rentré plus dans le rock tribal, et donc on commençait à avoir... Alors bon, on a peut-être donné naissance, avec d'autres groupes comme nous, à toute cette mouvance gothique qui a pu y avoir 10-15 ans après, quoi. Mais c'est vrai que quelque part, on pouvait nous prendre pour des vampires aussi, parce qu'on va pas dormir la nuit avec des Iroquoises qui se vaudraient la gueule, et avec toutes les substances nocives qu'on avait pu s'enfiler, on ressemblait au petit matin à des vampires.
Mais c'est de se démarquer de quel groupe ? Des groupes qui étaient à Orléans ou des groupes qui étaient plutôt français ?
Pour faire différent, la scène orléanaise, en fin de compte, et c'est ça aussi qui était très important à Orléans, c'est que cette scène rock, et là je vais aller beaucoup plus loin, la scène rock orléanaise avait beaucoup de diversité. Et l'avantage qu'on avait à Orléans, c'est que tous ces groupes se connaissaient et s'estimaient. Il y avait pas de... C'est pas parce que tu fais du rockabilly que t'es pas mon pote. C'est pas parce que tu fais du hard rock, c'est pas parce que tu fais des stops du style metal urbain, des trucs. Non, tout le monde s'entendait. Moi, je me rappelle faire des concerts, j'avais pas d'ampli, mon ampli était pas assez puissant. C'était Yacine qui jouait dans Métamorphose, qui m'a passé son double corps Marshall. Voilà, et lui, il faisait du hard rock. Et il était en devant de scène, c'était ça. Orléans, le rock à Orléans, c'était ça. Et c'est pour ça qu'on a pu avoir des festivals comme le Rock d'Orléans qui mélangeaient tous les genres et tous les gens étaient là. Parce que ce sont tous des potes. Et ce qui est marrant, c'est que ces potes-là, on se voit toujours, pour ceux qui n'ont pas disparu, quoi.
C'est la question que je voulais vous poser aussi, la question des orgas de concert, de la structuration autour de ce genre de structure, peut-être d'assaut, voire de festival. Est-ce que vous avez pris part à des orgas ? Est-ce que vous êtes organisé vraiment pour faire venir des groupes de l'extérieur peut-être, pour organiser vos propres concerts ? Comment ça s'est passé un petit peu ce truc-là ?
Moi je pourrais parler de Le Product par exemple, hein. J'ai vu que c'était un peu sur le programme. On parlait ce matin de « on veut une salle, on veut une salle ». En fait nous on voulait des salles. C'est pas forcément une salle qu'on voulait. On voulait des salles. On voulait l'autorisation. On voulait pas qu'on nous emmerde et qu'on trouvait un truc. Les bars fermés les uns après les autres. Les flics déboulaient sans arrêt. On voulait... C'est pas tellement des salles. C'est des autorisations de pouvoir aller faire le con, boire des coups et inviter des potes. On a fait dire les Real Cool Killers dans des endroits improbables. Alger la nuit, etc. Des gars qui nous acceptaient. Alors bien sûr, le tiroir caisse est important. Mais les gars nous acceptaient vraiment. Et à force de ces réunions, parce que la mairie a bien fini par nous rassembler. On s'est dit, mais vous voulez fédérer quelque chose qui est complètement infédérable. Il y avait 50 assos à Orléans qui ont été réunis en une asso Hiero, qui parlait de Hiero ce matin, toi peut-être, enfin je sais pas quoi. Je sais pas si l'Astrolabe a répondu au réel besoin de l'époque, de l'urgence de l'époque. C'est très bien, ça a existé, etc. Ça a fédéré les gens, c'est une salle très confortable, très agréable, très bien gérée. Mais je suis pas sûr que ce soit la vraie attente qu'on avait. Donc, à l'issue de ces réunions à la mairie, etc., un gars est venu nous voir. On était là, une bande de branleurs, en disant « Ouais, c'est dégueulasse, on peut rien faire. » Et un gars a dit « Mais c'est facile, il suffit de faire une association. » Ah ouais, et pour nous, faire une association, c'était impossible. Mais moi, je sais faire. Il faut un trésorier, un président, un secrétaire. Si vous voulez, on s'y met, etc. 15 jours après, Le Product était monté. On a trouvé une salle à Saint-Jean-la-Ruelle qui nous ont ouvert ses portes. On a fait venir des groupes super. On était une poignée de bénévoles. Alors, moi, j'ai fait des affiches, mais tout le monde était derrière le bar, au concert, à décharger les caisses, etc. Et Le Product a duré, je sais pas combien, je suis un peu comme Karl. Mais,
j'ai duré 5 ans, 5-6 ans.
Ouais, voilà, 5-6 ans. C'est pas mal, oui, bien sûr, sans subvention, enfin, je crois pas, mais bon...
J'ai le tampon.
T'as le tampon ?
Ouais, j'ai le tampon, Le Product.
Mais toi, tu le fais à manger, non ?
Non.
Non ? Ah, c'était Geoff.
Souvenir.
Geoff et Bugger. Donc voilà, il y a eu des associations, ouais, effectivement. Donc voilà, je pense qu'on s'est toujours démerdé. Quand l'Astrolabe est arrivé, tant mieux. Enfin, vraiment, Fred, Duff, je casse pas cette institution-là. Mais je suis pas certain que ce soit vraiment l'attente qu'on avait, nous, à cette époque-là. Quoi. Ouais. On voulait juste pouvoir jouer partout. Ouais. C'est pas des grandes salles, c'est pas des projecteurs et un super son qu'on cherchait. Quoi.
C'était la liberté de vous démerder. C'est peut-être pas l'attente qu'on avait, nous, Par contre, je pense que c'est l'attente qu'avaient les pouvoirs en place d'avoir un lieu, un seul lieu unique, justement, pour éviter qu'il y ait du bruit partout et qu'il y ait, et ça les a bien arrangés qu'il n'y ait que ce lieu-là aussi à ce niveau-là.
Petite dernière question, je dirais, avant les questions du public, si vous me permettez, ce serait plus la question de la transmission, de ce qui est resté un petit peu de cette structuration. Alors là, il y a bien sûr l'Astrolabe, hein, bien évidemment, mais vous qui avez peut-être des enfants ou qui, comment dire, est-ce qu'il y a des formes de transmission aussi avec peut-être d'autres orgas, de nouvelles orgas de punk, peut-être de plus jeunes? Est-ce qu'il y a eu un leg? Est-ce que vous avez, est-ce que vous essayez même auprès de vos proches, hein, du coup, de partager cette même culture des années, du punk des années 80, ou voir de ce que vous avez fait? Est-ce que, comment dire, est-ce que on peut être punk en étant, comment dire, moins jeune? Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression de sortir de l'adolescence d'un seul coup, là, ça fout un coup de vieux, c'est certain. J'ai 60 ans dans quelques mois.
Tu ne les fais pas.
Merci. J'entendais ce matin de transmission, etc. Alors, c'est peut-être le rôle, enfin, des chercheurs, etc. Très bien. Mais déjà, ce mot punk, on le revendique ou pas? Je pense que plein de gens auraient eu leur place sur cette scène à ma place, plutôt que moi, ça. J'en fais. Enfin, c'est évident, c'est indéniable. Peut-être que j'ai laissé des traces parce que j'ai fait des images. Mais cette histoire de transmission, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut transmettre. Comment est-ce qu'on peut transmettre la déconne, l'envie de faire le con, l'envie de s'amuser? Non, mais comment est-ce qu'on peut transmettre la subversion, la liberté?
La transmission, elle se fait dans l'éducation après. Elle se fait dans la façon que tu as de vivre et de faire ta vie. Il n'y a pas de volonté de transmission à proprement dit. Mais c'est juste la façon de vivre et sa façon de faire, et essayer de transmettre ces valeurs-là qui ont quelque part... Je sais que moi, le mouvement punk, pour moi, ça, au départ, ça a été, c'était l'image, dans les années 80, des punks qu'on voit sur les photos, là, avec des crêtes de Place du Martroi. On en voit, je ne sais pas si on en voit là, mais... Et oui, aussi, au départ, c'est cette image un peu destroy... Mais j'étais gamin. Et après, j'ai évolué dans ce milieu-là. Et ça m'a ouvert à des valeurs que je ne connaissais pas, mais qui sont plus des valeurs d'humanité, des valeurs de respect, des valeurs de plutôt pacifique, plutôt, enfin, pas carrément opposé au côté destroy. Moi, je suis straight edge. Enfin, je ne revendique pas straight edge, mais je bois plus d'alcool, je fume pas, enfin, je prends pas de drogue. Je suis et ça fait aussi partie d'un mouvement punk.
T'as pas de chance.
j'ai pas de chance. Si j'en ai. J'ai cette chance-là aussi. Et mais voilà. Enfin, tout ça, c'est des valeurs que tu as toi. Et la transmission, elle se fait par ta façon d'être. Je ne suis pas professeur. Enfin,
Tu ne te sens pas dépositaire d'une culture à transmettre, quoi. Oui.
Mais on a quand même eu la chance aussi avec les Burning, avec Burningettes, d'intégrer des programmes dans des lycées pour faire des interventions musical avec alors c'est dans des lycées bien spécifiques, c'est plutôt dans les lycées agricoles du côté de Toulouse d'ailleurs, bonjour à FMR, dans les lycées agricoles ils ont des enseignements spécifiques de remise à niveau culturel, dans ces enseignements c'est des enseignements dans lesquels les profs sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent, et il y a deux profs du côté de Toulouse qui sont assez fans de musique, qui créent des clubs de musique dans leur lycée, et par le biais de ces clubs de musique ils nous ont fait intervenir, et on a fait de la musique avec des élèves de lycée. Donc ça, on l'a fait plusieurs fois. Donc là, il y a un petit peu de transmission, mais c'est pas, enfin, je viens pas dire je suis punk et je viens vous transmettre, enfin,
ouais, c'est assez antinomique avec la notion de nos futurs, qu'on ne revendique pas forcément, hein, comme on ne revendique pas forcément
le vocabulaire de punk. Mais moi qui enseigne, j'ai entendu ce matin, je ne sais pas si encore là, tu parlais d'enseigner le chaos. Alors, est-ce que j'enseigne le chaos ? Certainement pas, mais je pense que j'ai été engagé dans cette école-là pour enseigner autre chose que l'académie. À aucun moment, j'enseigne une technique. À aucun moment, j'enseigne la typographie, la mise en page ou autre. Je n'ai rien à foutre et je leur dis bien. Et un gamin qui me dit « Ouais, mais monsieur, ça pixelise. Je m'en fous. Je m'en fous. » Si j'enseigne le chaos, hein, parce que j'ai amassé cette expression, c'est pour les autoriser à sortir le chaos qu'ils ont en eux, quoi, cette jeunesse-là. Quoi. C'est ça qui est intéressant. Je pense que plus que nos futurs ou Destroy ou autre, c'est Liberté, moi, qui m'intéresse dans ce mouvement-là. Ouais. Et mes gamins ont fait des écoles de commerce pour me faire chier, quoi.
Et voilà, ah là là.
Moi j'ai presque le même cas que Milouf. Ma fille qui ses premiers mots étaient eh oh gogo. Donc c'est, voilà, à force d'écouter, elle fait du hip-hop quoi. J'étais la voir hier en concert d'ailleurs avec un petit groupe de hip-hop qui jouait. Je fais une petite pub pour Unity Crew parce qu'ils sont. C'est pas que c'est bien ce qu'ils font parce que j'aime pas du tout. C'est pas du tout ma musique. Par contre j'ai retrouvé l'énergie que nous on avait à 20 piges. Ah, dans un concert où les mecs ils savent pas comment aller bien rebrancher le micro, ils sont en train de débuter quoi. Et j'ai retrouvé ça, j'ai dit putain c'est génial quoi. Mais l'enseignement, transmettre. Hein. Est-ce qu'un punk peut transmettre ce qu'il a connu et ce qu'il a fait pour que d'autres puissent avancer? Ça sert à rien. Nous on vient pas d'un truc qui nous a été transmis. C'est un truc qu'on a été chercher nous-mêmes. Enfin au fond de nous-mêmes. Parce que derrière on avait des profs qui nous faisaient chier, qu'on avait des flics qui nous arrêtaient à tous les coins de rue, parce qu'on avait des politiques qui nous foutaient la merde. Et d'ailleurs c'est maintenant le cas peut-être que des nouveaux punks ressortent parce que on nous la fout bien là. Et voilà. Et on ne peut pas. On n'a pas à apporter notre expérience de punk à des gamins pour qu'ils deviennent punk. Il faut qu'ils le deviennent par eux-mêmes. Sinon ils ne seront jamais punk. Ils vont faire la musique punk. Peut-être. Ils vont imiter. Mais ils ne seront jamais des punks. D'accord. Punk, c'est au fond de nous. C'est voilà, c'est comme ça. C'est de la rage. Et il faut que ça vienne de là, quoi.
Sachant.
Alors peut-être qu'à partir de maintenant, on peut effectivement. J'en profite pour passer aux interventions du public à partir de ça. Ah, je vois que monsieur a une question.
Bonjour. Donc c'était très intéressant. J'étudie le punk et c'est un truc qu'on remarque très facilement, c'est la façon presque vampirisante qu'a la présence de Paris sur la scène punk. C'est vraiment genre, en fait, on parle que de Paris, que de ça et trucs. C'est pour ça d'ailleurs que incroyable que le Pind fasse ça ici à Orléans, parce que du coup ça permet de diversifier comme ça. Comment à l'époque avez-vous ressenti cette présence parisienne? Est-ce que pour vous c'était pas forcément un objectif, mais oh putain machin, on a un groupe, on va jouer à Paris ou ce genre de choses? Ou
Alors nous, oui, Destop, on a commencé par jouer, on a fait très peu de dates, on a commencé par jouer à Orléans, donc au Petit Ballon, dans ce cabaret dont on a parlé tout à l'heure, et puis rapidement, oui, on est allé jouer, on a joué au Gibus, très vite, parce qu'en fait, on était soutenu par le magazine New Wave, et, enfin voilà, donc il y avait tout, c'est vrai qu'on a été un peu happé quand même, finalement, par Paris. New Rose a distribué notre premier disque, New Rose, je ne sais pas si ça parle évidemment aux plus anciens, mais donc voilà. Donc il y avait quand même, si, il y avait une force d'attraction tout de même à Paris pour les raisons suivantes. D'abord, le nombre de salles de concerts possibles, et puis surtout l'intérêt de producteurs, et d'éditeurs et de fanzines qui étaient quand même souvent basés à Paris à ce moment-là. Ouais. Bah, je parlais tout à l'heure d'on n'est pas des sauvages, hein, il y a des exceptions bien sûr, tout ne venait pas de Paris. Et puis il y avait aussi des fanzines, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure, mais très rapidement. À Orléans, moi j'ai quand même contribué à la création d'un fanzine qui s'appelait Mutant, et puis Tropique du Cancer aussi, voilà, donc qui traitait de ce type de musique aussi.
Et moi je pense pour répondre à ta question par rapport à Paris, le problème ou l'avantage qu'on a, c'est qu'on est à une heure de Paris. On n'est pas encore une banlieue parisienne, mais donc la proximité était évidente. J'avais cette discussion tout à l'heure. Je mange en face d'un Parisien et je me retourne vers Blush en disant ah, comme ça, bon, c'est de bonne guerre si tu veux. Mais on a aussi on a eu des très bons groupes à Orléans. Je pense aux Burning Heads, qui n'ont rien à envier aux Parisiens de cette mouvance-là. On a eu effectivement KO Productions, qui a été le premier label indépendant en France. Alors bien sûr qu'on rêve d'aller jouer à Paris, mais on n'a pas forcément le réseau. Il y a une espèce de rivalité, c'est une guerre de clochers, quoi.
Voilà. Oui, mais il y a eu des excellents groupes à Paris qui nous ont. Certains nous ont agacés, mais il y a eu aussi Parabellum, merde, il y a eu Blaise Virgin, il y a eu des très 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 bons groupes.
Robert Burns, Wunderbar, La Souris Déglinguée.
Mais justement, par rapport à Paris, c'est dommage que Karl ne soit plus là, mais s'il y a eu justement ce festival Chaos en France. Les compiles Chaos Productions, tout ça se sont fait ici, à Orléans, entre Orléans, Blois, Tours, et justement pas à Paris. Et je pense que c'était justement aussi en réaction à ça, pour faire des trucs sur place.
Ouais, moi j'aimerais bien réagir à ce que vous dites, parce que moi j'étais à Paris à ce moment-là, et moi j'ai commencé par faire des articles dans des fanzines, dont Bruit Graffiti, ça vous dira peut-être quelque chose, enfin ce genre de fanzines. Et après, j'ai commencé à organiser des concerts à partir de 85, on va dire, notamment dans une salle qui s'appelait Rex Club, dans laquelle énormément de groupes sont passés. Et donc là où je voulais en venir, c'était que justement, moi, moi, j'ai jamais été punk, mais j'ai toujours côtoyé les punks et les rock. Moi, je vois pas de grosse différence entre le rock et le punk. En général, tout ça, pour moi, c'est la musique qui est le vecteur de la contre-culture, ce qui est le support, en fait, à la créativité. Divers et variés. Bref. Et donc, moi, par ce réseau des fanzines et tout ça, je connaissais par cœur, en fait, la France punk. Moi, quand on me dit punk, tout de suite, je pense Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Le Havre, Rouen, Brest, et Orléans, bien sûr. Et donc, pour répondre à la question initiale, moi, j'ai toujours eu ce sentiment qu'il y avait des gens en province qui ont voulu à Paris de prendre toute la place, mais que ce n'était pas du tout la réalité qu'on vivait quand on était à Paris, en fait. Quand on était à Paris, on se sentait la ville, la grosse ville qui était là, dans un réseau national, en fait. Enfin, moi, vraiment, j'ai jamais eu d'autre conception du truc que ça. Et Rascal, qui interviendra tout à l'heure, il pourra vous en parler encore plus que moi.
Ton prénom, c'est ?
Michel.
D'ailleurs, la plupart des magazines et fanzines de l'époque proposait d'ailleurs une rubrique réseau national avec toutes les radios libres de France. Il y avait effectivement cette envie de montrer que c'était plutôt un maillage national, avec la liste des radios libres, la liste des contacts des fanzines, des groupes, etc. Et même avec souvent des rubriques régionales, c'est-à-dire région centre, région sud, etc. Ça, c'était assez... J'ai revu des vieux New Wave, là, il n'y a pas longtemps, et c'était vraiment typique, quoi, de cette époque.
Je voulais juste rajouter un petit truc, tu as parlé de radio libre, et c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas parlé avant, c'est qu'on a eu la chance d'avoir les radios libres. Toutes ces radios qui ont émergé de partout et on allait s'éclater dedans, on s'invitait à des tables rondes dans les radios, comme en Radio Mary Poppins à Orléans, ça avait été excellent. Moi, je me rappelle d'une interview on ne pouvait pas rentrer, les trois musicos d'Halloween, on n'a pas pu rentrer dans le studio puisque c'était trop petit, c'était dans un espèce de placard à la fac, et cette radio s'appelait Vibration. Pour tout vous dire, et on a eu la chance d'assister à ça. C'est ce qui nous a, c'était un gros vecteur aussi de la musique, parce qu'on arrivait avec nos cassettes. Ils nous passaient nos cassettes. On avait que ça à l'époque. Hein. Quand on n'avait pas la thune d'aller faire un vinyle, on avait une cassette. Et donc ça aussi, ça a été un gros support pour nous, quoi. Ouais, mais nous on les avait pas, on chopait pas tout. Hein. Sur Paris, vous chopiez peut-être un peu. À Tours aussi.
Mais c'est peut-être mouvement-là et cette époque qui a permis cette décentralisation culturelle, finalement. Je ne sais pas très bien, mais effectivement, les radios libres, mais peut-être l'époque libertaire, etc., ont permis... Pourquoi Le Havre ? Pourquoi Orléans ? Pourquoi Clermont-Ferrand ? Parce que Buck, parce que Riel Cool Killers et ce disquaire, là, enfin, sur le plateau. Pourquoi Grenoble ? Pourquoi... Il suffit que des individus se disent moi j'ai le droit, je le fais, et puis ben voilà. Tu parles de Rascal, si c'est Rascal de Paris Baroque, je suis content de te revoir, Rascal, si t'es là.
Non, il vient plus.
Ah, il vient plus finalement. Mais j'ai eu l'occasion d'aller exposer mes peintures dans les concerts de Paris Baroque. C'était extraordinaire, quoi. Donc cette proximité de Paris nous a permis tout ça, mais il n'y avait pas vraiment d'animosité. On s'est jamais senti les petits frères non plus, quoi. Parce que justement, cette fierté d'assumer ce qu'on voulait être nous a ouvert toutes les portes, quoi.
Oui, puis il y a aussi un autre personnage, parce que c'est vrai, la proximité de Paris. Et désolé Stéphane, je te laisse pas parler. Hein. Je vois que tu as le micro là. Ouais, on a un personnage aussi à Orléans qui nous a apporté aussi beaucoup. Hein, oui, il y a Didier Filiou, mais je voulais aussi parler de Dominique Revert. Avec Carrie, qui donc bah, justement grâce à cette proximité de Paris aussi, où il avait des contacts sur Paris, et ça permettait d'avoir quand même, on a eu tous les plus grands groupes internationaux rock ou punk rock qui sont passés, qui ont pu passer, que ça soit à la salle du Baron ou au Zigzag. Voilà, on a eu cette chance aussi, et lui donnait sa chance à tous ces petits groupes locaux de pouvoir jouer en première partie. J'ai eu la chance de faire la première partie des Lord of the New Church et de boire un litre de vin blanc avec Steve Bator, quoi. C'est voilà, c'est le truc, c'est waouh.
Non, c'était du vin rouge.
Non, du vin blanc. C'est moi qui l'avais dans ma housse de guitare, la bouteille.
Oui, alors je voulais simplement dire que être punk aujourd'hui à Orléans, c'est peut-être de boycotter l'Astrolabe. Merci.
Ouais, mais on a tous ce côté-là. Je l'ai dit tout à l'heure, je redis, on a la chance à Orléans d'avoir l'Astrolabe, mais ce n'est pas forcément ce qu'on attendait. Évidemment, c'est une chance pour une ville d'avoir un lieu comme ça. Ce n'est pas forcément ce qu'on attendait. Voilà. Quand on a fait 20 years... Mais non, mais on n'est pas là pour ça, Stéphane.
Bon, bien ok.
Mais on la soutient, la scène. Oh, merde, Stéphane, il n'est pas là. Tu sais, quand on a fait 20 years, hein, quand on a fait cette espèce de 20 ans de rock à Orléans, non pas les 20 ans du rock, mais 20 ans de rock à Orléans, il y avait en sous-titre des premiers punks à l'ouverture de l'Astrolabe. Il ne s'agit pas d'une rupture. C'est une évolution sur la scène. Ce n'est pas à l'Astrolabe de tout porter non plus. Et nous, si on se revendique comme ça...
On
ne
voit pas l'Astrolabe.
Non, mais... Bon, mais on n'est pas là pour se battre. Je pense que ce n'est pas le lieu. Oui, ok. Mais
une dernière question peut-être pour le public.
Si c'est pas la salle qu'on attendait, j'attends rien de plus que ce que la porte ici à Orléans. Je m'en fous, il y a d'autres lieux pour ça.
Alors,
Il
est éteint, il est allumé. Alors, je rassure Fred, hein, c'est un vieux pensif. À chaque fois qu'on fait une journée peinte, il y a toujours plusieurs personnes pour dire que la SMAC c'est le diable. Il faut quand même rendre justice à. C'est sûrement le diable, mais c'est quand même des lieux qui permettent à un public d'accéder à ce genre de musique, et c'est important quand même, indépendamment de tout ce qu'on pense. Et on en parlait ce matin, quand même, la première génération qui va bientôt partir à la retraite, enfin de moins en moins bientôt d'ailleurs, c'était quand même des gens qui ont toujours été très engagés, qui ont eu des assos. La question va être plutôt pour la relève qui va être prise avec des choix de programmation. Je peux te dire qu'on peut se réjouir qu'il y ait du punk à l'Astrolabe. Il y a des lieux, par exemple au 6x4, où le programmateur a changé et le punk, il n'y en a plus. Hein, voilà. Donc il faut quand même être un peu nuancé. Mais c'est un grand pensif. Voilà. Oui, mais bon, voilà. Et moi, je voulais juste vous poser une question, et pas du tout provocante. Hein. Je me demandais où sont les femmes. Non, dans le sens où, en fait, on en voit sur les photos, je sais qu'elle est venue ce matin, etc. Est-ce qu'il y avait des femmes qui, par exemple, faisaient de la musique et qui n'ont pas passé le stade de « on sait bien qu'elles enregistrent moins, qu'elles y a moins de... » Voilà, elles s'autocensurent plus, etc. Il y en avait où, en fait, c'était une scène exclusivement masculine, sans que ça soit pour déclencher une polémique du tout, hein, que ça soit clair.
Bah, dans ce que j'en connais... Donc après, moi, j'ai fait une émission de radio, donc j'invitais pas mal de groupes. C'est vrai que... j'en ai très peu croisé. À Orléans, je me souviens d'un groupe, alors c'était un groupe de Chartres qui s'appelait Wurlitzerka, qui était plutôt féminin.
Et BDX à Orléans, avec une chanteuse, et avait les sœurs.
Et dans le public, il y en avait des femmes?
Ah oui.
Bah, public, oui.
Alors, oui, mais... il y en a beaucoup plus dans le public en fin de compte. Quand on voit les devants de scène sur des concerts à l'heure actuelle à Orléans, par exemple, on va au Dropkick, en gros, les devants de scène, ce ne sont que des filles.
Public, organisation de concerts, public, oui, c'était plus féminin. Mais effectivement, sur scène, c'est très rarement féminin. Et ça l'est toujours, très rarement féminin. C'est encore très dur de voir des femmes. En technicien, il y en a un peu plus, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. En musicien, il y en a un peu plus, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Alors, d'où ça vient, faut voir. C'est un grand débat, mais voilà.
En tout cas, c'est
la réalité, là.
Je prends juste une dernière question, du coup.
Moi, c'est Johan, j'ai 37 ans. Vous parliez de transmission, qu'il n'y avait pas de transmission telle que vous le voyez. C'est les Burning Heads qui m'ont donné envie de me mettre à la musique. C'est Opposite et PPM qui m'ont mis le pied à l'étrier sur l'orga des concerts. Je pense que la transmission, elle a eu lieu plus par l'exemple, parce qu'effectivement, vous avez accompli ce que vous représentiez, qui a donné envie envie, qui a dit que c'était possible et qui a donné envie, en tout cas à des personnes comme moi, de continuer. Et moi, dans mes orgas, effectivement, mon but, c'était qu'à un moment, ça parle à des gens et ça les touche. Et quand je vois qu'il y a Mathéo, qui est venu à toutes les orgas de concert que j'ai fait, qu'aujourd'hui, il a monté sa structure, qu'il était perdu à 18 ans à son bac et que finalement, bah, aujourd'hui, il a trouvé du sens dans ce qu'il fait professionnellement dans la musique, mais aussi en dehors. Enfin, pour moi, la transmission du punk, elle est là, en fait.
Oui, t'as raison. Mais tu vois, c'est en faisant, en montrant. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Ah, mince, je me rappelle plus son prénom, l'intervenant. C'est
Manuel. Moi ou non, l'intervenant.
Non, le dernier intervenant de ce matin.
Oui. C'était Nicolas.
Mitraille. Et il disait, c'est d'abord on fait et après on est. Enfin, je résume un peu vite, mais c'était un peu ça ce qu'il disait. C'est d'abord on fait et après on devient. Donc voilà, la transmission, c'est aussi ça, c'est en faisant, en montrant, et ça peut-être donner des envies.
Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup.